Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui, dans le programme en français, on va faire un point vélo, un point cyclisme avec Florent Malaisio. Salut Florent.
Salut Christophe.
Eh bien, on va faire un point cyclisme parce que il y a eu la reine des classiques qui s'est déroulée ce week-end. Paris-Roubaix, bien entendu, Paris-Roubaix en octobre. C'est quelque chose d'exceptionnel et Dieu qu'on a vécu une course extraordinaire chez les femmes et chez les hommes.
Ouais, c'était un week-end incroyable et certainement une édition qui va rester dans l'histoire pour plusieurs raisons. Comme vous l'avez dit, c'était en octobre au lieu de se dérouler en avril. C'était la première édition de Paris-Roubaix femmes. Et c'était également la première édition sous la pluie depuis de très nombreuses années. On a vu des courses absolument fantastiques ce week-end.
Ouais, absolument. Alors, on va revenir un petit peu justement sur cette course de Paris-Roubaix Femmes. Première édition de Paris-Roubaix Femmes, ça aurait déjà dû se passer l'année dernière, mais il y a eu, on le sait, des problèmes avec le Covid. La course avait dû être annulée. Et c'est vrai que ça a vraiment livré une superbe bataille. Même si le peloton s'est égrené très rapidement, ça a été quand même une course vraiment de toute beauté.
Ça a été une course magnifique, une course assez compacte, hein, 116 km, mais avec énormément de secteurs pavés. Hein. Les filles ont commencé directement dans le département du Nord, où se situe l'ensemble des secteurs pavés. Et très très tôt dans la course, on a vu une attaque de Lizzie Deignan, la Britannique, qui est partie à l'avant et plus personne ne l'a jamais revue. Derrière, ça s'est morcelé. On a eu beaucoup de petits groupes qui se formaient au gré des secteurs pavés, au gré des chutes. On a vu des très grosses chutes. On a vu l'Australienne Sarah Roy qui a chuté lourdement, qui a quand même fini la course, hein, pas de blessure. Pour une première édition, c'était absolument magnifique et c'était une course de costaud, hein. Quand on regarde le podium, Lizzie Deignan première, deuxième Marianne Vos, la légende, et troisième Elisa Longo-Borghini. Donc il y a vraiment pas d'erreur dans ce résultat.
Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu des casses, il y a eu de la casse quand même globalement. On a vu Annemiek van Vleuten par exemple qui s'est cassé les os du pubis et aussi l'épaule, je crois, qui met terme donc à sa saison, mais surtout qui met en jeopardie le début de sa saison prochaine. À tel point que cette course est difficile. Est-ce que vous croyez que on se rendait compte que dans le circuit féminin, on savait que c'était dur, mais qu'on se rendait compte à quel point c'était dur?
Je pense que les favorites avaient une petite idée quand même, parce que comme vous l'avez dit, la course était prévue pour 2020. Il y a beaucoup d'équipes qui s'étaient rendues dans le Nord pour reconnaître les secteurs pavés. Et c'est vrai que les filles ont l'habitude de rouler et de courir dans les Flandres belges, où on a des secteurs pavés qui sont assez bien entretenus, avec des pavés proches les uns des autres, des petits pavés, donc c'est pas trop cabossé, c'est pas trop difficile. Mais c'est vrai que les pavés du Nord, ils sont différents. Les chemins, les secteurs pavés qui sont utilisés par Paris-Roubaix et par Paris-Roubaix Femmes, le restant de l'année, ils sont utilisés par les agriculteurs locaux qui roulent avec leur tracteur dessus. Alors vous imaginez bien qu'un tracteur de plusieurs tonnes, ça laisse des traces, et il y a des sillons énormes entre chaque rang de pavés. Je pense qu'elles avaient une petite idée de la difficulté, mais effectivement, entre une reconnaissance que vous faites avec vos coéquipiers à un rythme soutenu mais gérable, et les conditions de course, l'excitation de la première édition, les conditions météo un peu difficiles, ça a rendu la course absolument épique, et ça n'en rend que plus beau le fait de passer la ligne d'arrivée, quoi, de finir dans ce vélodrome mythique de Roubaix.
Ouais, et puis Lizzie Deignan, la première Britannique à remporter le Paris-Roubaix, homme ou femme confondu. Il n'y avait jamais eu un Britannique qui avait remporté Paris-Roubaix depuis 1896. C'est chose réglée là. C'est une grande championne.
C'est une très grande championne. Et alors effectivement, première Britannique, premier Britannique, on devrait dire, parce que combiner course homme et femme, c'est la première pour le Royaume-Uni à remporter cette course. Et puis C'est aussi une mère de famille. On se souvient que l'équipe Trek Segafredo lui avait fait confiance il y a un an et demi ou deux ans, lorsqu'elle avait mis au monde sa fille, en la maintenant sous contrat, en continuant de la payer durant sa grossesse. Et je pense qu'elle le rend bien, et elle prouve qu'on peut mener de front une vie de maman, une vie de cycliste de haut niveau. Et ce qu'elle fait pour le cyclisme féminin est absolument remarquable.
Alors, si on pensait que les conditions étaient dantesques pour les femmes, en fait, c'est passé à un autre niveau chez les hommes dimanche, parce qu'il a eu encore plus de pluie, il a fait plus froid. C'était vraiment des conditions, comme vous le disiez, qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. En fait, 2002. 2002, c'était le dernier Paris-Roubaix sous la pluie. Et c'est vrai que bouger un Paris-Roubaix qui, normalement, se court en avril, le bouger pour le mois d'octobre, bon, il y avait des chances de pluie quand même. On connaît la région du nord de la France en octobre, mais là, ça a quand même. C'était presque, je suis à court de mots, c'était presque incroyable de voir ça, c'était des gladiateurs.
Ouais, c'était impressionnant. Les images étaient assez impressionnantes. Si les auditeurs ont la chance de regarder un replay sur SBS On Demand, vous verrez la différence entre les vues de caméra depuis la moto qui filme les coureurs de face et les vues d'hélicoptère qui filment les coureurs du dessus. Et de face, il est impossible de reconnaître les participants. Ils sont tous couverts de boue, ils sont tout gris. Le seul moyen de les reconnaître, c'est vu d'hélicoptère, parce que le dos est encore tout propre. Alors on peut reconnaître les maillots, on peut reconnaître les numéros de dossard. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le week-end de Paris-Roubaix, c'est un week-end extrêmement chargé pour la région. Il y a Paris-Roubaix Junior, il y a Paris-Roubaix Femmes, il y a également Paris-Roubaix Challenge, la cyclo-sportive, avant que la course majeure Paris-Roubaix Hommes ne se déroule. Ce qui signifie qu'il y a des milliers de coureurs qui passent sur les secteurs pavés, des centaines de véhicules qui passent sur les secteurs pavés. Ajouter à cela de la pluie pendant les 3-4 derniers jours avant l'épreuve, ça a rendu le terrain absolument dantesque. On a vu les coureurs en entrée de secteur pavé rouler parfois dans 30 cm d'eau, être arrosés de partout. Donc ils ont passé une première partie de course assez désagréable. Hein. Je pense qu'il faisait pas chaud, il pleuvait, il y avait de la boue. La pluie s'est arrêtée ensuite, donc c'est devenu un petit peu plus sec, mais on a vu pas mal de chutes encore une fois. Hein. Les secteurs pavés sont relativement bombés, les cyclistes tentaient de rouler sur le dos du pavé, mais il suffit de faire un petit écart et puis il y a la roue arrière ou la roue avant qui part sur les côtés. Donc on a vu de très beaux numéros d'équilibristes, notamment de Gianni Moscon qui a été échappé pendant un long moment, qui malheureusement a fini par aller au tapis et ça lui a coûté son écart sur le groupe de poursuivants.
Ouais, tout à fait. Et l'Italie a l'honneur, puisque vainqueur, on a Sonny Colbrelli. Il est assez incroyable, il a eu une saison vraiment hors norme, on va dire. Et Sonny Colbrelli, qui a quand même battu quand même deux super coureurs dans le sprint finish. Et surtout, au total, il a quand même battu Mathieu Van Der Poel, qui était quand même l'ultra favori quand on a vu l'échappée et comment ça s'est déroulé. Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, a été battu par Sonny Colbrelli au sprint dans le vélodrome de Roubaix.
Ouais, effectivement. Alors, c'était intéressant comme course parce que les trois coureurs qui se trouvent sur le podium, c'était leur première participation.
Ouais, c'est la première fois qu'un rookie, donc un premier participant, gagne Paris-Roubaix depuis 1955.
Ouais, c'est une course d'expérience, hein, Roubaix. C'est une course très difficile. Il faut la courir quelques fois pour essayer de la comprendre. On se souvient de Matt Heyman qui avait gagné en 2016. Je crois qu'il en était à sa 7e ou 8e participation avant de pouvoir gagner. C'est une course très difficile. Les trois premiers cette année, c'est la première fois qu'ils participent à cette épreuve. Effectivement, on avait tous nos yeux rivés sur Mathieu Van Der Poel, hein. C'est un grand gabarit, donc assez bien taillé pour les pavés. On sait que c'est un costaud. Il vient du cyclocross, donc la boue, ça lui fait pas peur. Le manque de visibilité, ça lui fait pas peur. Il a un maniement du vélo qui est extraordinaire. Mais voilà, c'est pas que ça, Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, il faut éviter les crevaisons. Il faut éviter les chutes et il faut savoir courir intelligemment pour garder suffisamment de force parce que la particularité de cette course, au-delà des pavés, c'est qu'elle se termine dans un vélodrome. Et le dernier tour et demi, hein, les derniers 750 mètres, ils sont un peu particuliers parce qu'on joue au chat et à la souris, on se regarde et c'est celui qui va avoir la meilleure giclette, comme on dit, le meilleur sprint qui va remporter la course. Et après plus de 250 km de course sur les pavés, dans le froid, sous la pluie, et ben celui qui a le meilleur sprint, c'est pas nécessairement celui qui gagne habituellement. On l'a vu hier, donc Sonny Colbrelli qui s'est imposé face à Florian Vermersch qui a fait un numéro exceptionnel, ce jeune coureur belge de l'Auto Soudal. Il a roulé les 500 derniers mètres à la perfection et il arrive à prendre la seconde place qui est un résultat absolument fantastique pour lui. On se souviendra également des images de Mathieu Van Der Poel après la ligne d'arrivée, complètement effondré. Il est resté plusieurs minutes par terre, non pas de désespoir, mais simplement de fatigue, quoi. C'était une très très longue journée sur le vélo. Le temps de course de ce Nicole Brély, 6 heures, 1 minute et 57 secondes. Imaginez-vous passer 6 heures sous la pluie, dans le froid, à essayer de maintenir votre vélo sur ses deux roues. C'est absolument incroyable. C'est vraiment une course pour les costauds.
Ouais, absolument. Allez, si on revient un petit peu en arrière, parce qu'on va parler de choses, du vélo depuis un petit moment, on a quand même Julien Alaphilippe en France qui a fait un numéro extraordinaire en Belgique. Il maintient son titre de champion du monde. Une petite question pour vous, Florent. Est-ce que vous y croyez avant même ce championnat du monde, ou est-ce que c'était un petit peu l'histoire, le conte de fées auquel on pouvait rêver, mais qu'on n'osait pas toucher? Mais en fait, il y a un homme qui l'a fait, c'est Julien Alaphilippe.
Moi, j'y croyais pas jusqu'au dernier kilomètre. Hein. J'ai eu du mal à y croire. C'est-à-dire qu'avant la course, on avait entendu des interviews de Julien qui indiquaient que ça allait être difficile pour lui de défendre son maillot. Il commençait également à mentionner le fait que c'est un maillot qui est difficile à porter, hein, durant la saison, parce que voilà, c'est un peu comme avoir une cible sur le dos. Il y a un poids qui vient avec ce maillot qui est magnifique, mais qui est difficile à porter. Et puis pendant la course, on a vu Julien attaquer à plusieurs reprises sans relâche, et c'était pas des demi-attaques, il y allait quand même franchement. J'avais du mal à réaliser qu'il aurait suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au bout. Mais bon, s'il y a une chose qu'on connaît à propos de Julien Alaphilippe, c'est que rien n'est impossible avec lui. Et la preuve, hein, il a fini par avoir cet écart sur le groupe de poursuivants, et il l'a maintenu jusqu'à l'arrivée pour défendre son titre. Deuxième maillot arc-en-ciel en 2 ans, c'est le seul Français à l'avoir accompli. C'est absolument fantastique pour le cyclisme français, mais également pour le cyclisme en général. C'est un très bon ambassadeur de notre sport, Julien.
Et oui, et puis ça paye pas, mais on fait un petit cocorico quand même, parce qu'on l'aime bien, Julien, quand même. Il n'y a pas à dire.
C'était un travail d'équipe, hein.
Ouais, énorme, voilà, énorme travail d'équipe, vous avez raison, parce que c'est pas juste Julien Alaphilippe qui a pu gagner ce titre mondial. Il y a eu énorme travail d'équipe, énorme travail du coach aussi, hein, Thomas Vauclair, qui a fait un boulot extraordinaire, parce que quand on y réfléchit, Thomas Vauclair, il n'est pas là depuis très longtemps à la tête de l'équipe de France, mais on a eu Romain Bardet qui avait fait un podium, il me semble, troisième, et Julien Alaphilippe qui gagne 2 titres mondiaux. Donc il a vraiment changé les choses, Thomas Vauclair.
Et ils ont su se remettre en cause en cours de route. Le plan initial de l'équipe, ce n'était pas que Julien aille défendre son titre, mais plutôt qu'il amène son coéquipier au plus proche de la ligne pour aller défendre le titre dans un sprint. Mais quand Julien a réalisé qu'il avait les jambes, il est descendu à la voiture, puisque comme on le sait, sur les championnats du monde, il n'y a pas de radio, donc on peut pas gérer la course à distance. Il est descendu à la voiture pour discuter avec le coach, Thomas Vauclair, et ils ont réajusté leur stratégie et bien leur en a pris, puisqu'on voit que le résultat est absolument positif. Et on va avoir les chances de voir Julien Alaphilippe avec le maillot arc-en-ciel sur les routes de France, du Tour de France certainement, et d'autres courses l'année prochaine. Et pourquoi pas le voir venir défendre son titre l'année prochaine ici en Australie, à Wollongong, puisque les championnats du monde se dérouleront au sud de Sydney.
Absolument, on a vraiment hâte que la saison, c'est dommage à dire, mais on a hâte que la saison 2022 débute, hein, alors qu'elle a à peine terminée en fait, elle n'est même pas encore complètement terminée. Merci Florent.
Merci Christophe.